Chapitre 5. Trois jours plus tard, un cercueil, porté par quatre hommes, sortait de Kerlozo. Immédiatement derrière venait Hoël, habillé d'un vêtement noir trop large, que lui avait fait venir de Vannes Madame Muizen, la mère du recteur. Puis suivaient quelques gens du pays, des vieux surtout, venus là par une sorte de déférence pour le nom que portait le défunt et qui, si longtemps, avait été le premier du pays. En quittant le cimetière, le recteur emmena Hoël chez lui. L'enfant avait été profondément remué par cette mort soudaine, devant laquelle frémissait la sensibilité, cachée sous des apparences de rêverie et de froideur. Certes, le défunt n'avait eu pour lui et ne lui avait inspiré aucune affection. Néanmoins, il était son seul parent. De plus, Hoël avait vu la mort de près pour la première fois. Enfin, sa foi était assez vive et sa piété assez réfléchie pour qu'il éprouvât quelque chose du douloureux effroi des âmes croyantes devant la fin subite de ce vieillard dont l'existence s'était écoulée dans la plus complète indifférence religieuse. Le recteur voulut qu'il demeurât chez lui dès ce soir même. Il projetait de demander la tutelle de l'enfant puisque celui-ci n'avait plus de parenté. Quant aux ressources pécuniaires, il convenait de voir ce que laissait après lui M. de Pendegui. L'abbé Muizen avait là-dessus son idée, qui se trouva confirmée quelques jours plus tard, quand le juge de paix et le notaire allèrent faire l'inventaire à Kerlozo avant d'y apposer les scellés. Le marquis de Pendegui était bien un avare, comme le pensaient quelques-uns. On trouva chez lui, dissimulé dans un placard de sa chambre, une somme assez importante en or, billets et titres divers. Et un examen attentif amena cette constatation. Le vieillard avait économisé, même sur la pension militaire de son petit-neveu, privant presque l'enfant du nécessaire, le laissant aller vêtu comme un miséreux, pour satisfaire son affreuse passion. Cette découverte soulagea le recteur d'une inquiétude. Il avait tout juste de quoi vivre avec sa mère et un jeune frère, et se demandait comment il lui serait possible de subvenir, en outre, à l'entretien d'Hoël. Maintenant, cette question se trouvait résolue. L'enfant pourrait recevoir une instruction convenable dans une pension modeste et ne se trouverait à la charge de personne. Un matin, en sortant de l'église où il venait de dire sa messe, le prêtre fut arrêté sous le porche par Mademoiselle Élise, qui tenait Luce par la main. « Monsieur le recteur, cette petite fille a quelque chose à vous remettre. » Le recteur, en caressant la joue de l'enfant, demanda en souriant « Et quoi donc, petite Luce ?» L'année précédente, Luce avait commencé d'assister au catéchisme et elle connaissait bien, de ce fait, monsieur le recteur. Elle l'aimait beaucoup parce qu'il était bon et doux. Et tendant la main, elle lui présenta le vieux volume ramassé quelques jours auparavant près du moulin, après la bataille entre Fox et Kenock. « C'est un livre à Hoël, monsieur le recteur. Il était tombé sans qu'il s'en aperçût. Voulez-vous bien le lui donner, s'il vous plaît ?»« Mais oui, ma chère enfant. » Ou bien, venez plutôt le lui remettre vous-même. Il est chez moi. En même temps, mademoiselle, j'aurais à vous demander un petit service. Il s'agirait d'aider ma mère à orner l'église pour la Toussaint. Vous vous entendriez avec elle. » Tout en causant, ils gagnèrent le presbytère, grand logis gris, que le cimetière séparait de l'église. Luce, toute joyeuse de revoir Hoël, sautillait en avant. Elle dit gentiment bonjour à Madame Muizen, qui se tenait à une fenêtre du rez-de-chaussée et qui l'enleva sans façon pour la faire passer par-dessus. Après qu'elle eut embrassé la bonne dame, qui chérissait tous les enfants, elle demanda à Hoël, en expliquant que Monsieur le recteur voulait qu'elle lui remît elle-même son livre. Madame Muizen la conduisit dans une pièce voisine, ouvrant sur le jardin, et lui dit « Eh bien, allez le chercher là, ma mignonne !» Luce ne se fit pas prier. Elle s'engagea dans une petite allée entre des poiriers chargés de fruits. Tout au bout, sous un pommier, Hoël était assis et lisait. En entendant un pas léger sur le sol humide de l'allée, il leva la tête et eut une exclamation. « Ah, vous, Luce ? Oui, je viens vous rapporter votre livre que vous avez laissé tomber près du moulin. En effet, je suis retournée pour le chercher ensuite. » « Vous êtes bien gentille d'être venue. »« Je suis très contente. Mademoiselle Élise cause avec Monsieur le recteur et on m'a permis de venir vous voir. » Tout en parlant, elle grimpait sur le banc avec une souplesse de petite chatte et s'y installait commodément. Ses yeux vifs inspectèrent Hoël des pieds à la tête, et elle déclara « Ça vous change d'être en noir et avec des habits neufs. Est-ce que vous avez du chagrin à cause de votre oncle qui est mort ?» Hoël songea un moment, les yeux fixés sur un vieux poirier aux branches moussues, avant de répondre « Oui, un peu tout de même. Je n'ai plus personne maintenant, plus de parents. » « Alors, avec qui allez-vous demeurer ?»«
J'irai en pension, probablement. »«
En pension ? Oh, c'est triste, ça !» Hoël secoua la tête. Une ombre d'angoisse couvrait ses yeux rêveurs.
« Oui, mais je sais bien qu'il le faut. Je veux travailler, apprendre. »
L'ombre se dissipait et le vert profond des yeux devenait plus ardent. « Je veux faire des vers très beaux, qui feront pleurer. » Je veux être un poète. » Le fin visage hâlé frémissait. Dans le regard d'enfant passait la brûlante flamme du rêve qui, déjà, entraînait Hoël vers les idéales régions des concepts poétiques. Au même moment, dans le salon garni de solides meubles de noyer où il recevait Mademoiselle Élise, le recteur disait à son interlocutrice « Ce petit Hoël me paraît admirablement doué au point de vue intellectuel. » Quelqu'un de compétent, à qui j'ai montré de ses vers, m'a dit qu'il était étonnant pour un garçon de cet âge. Il a composé dernièrement un petit drame, en breton, que je trouve tout à fait charmant. Mais je ne le lui ai pas dit. Je ne veux pas l'encourager dans cette voie qui peut lui réserver des désillusions. Car il n'a pas de fortune, ou du moins, pas une fortune suffisante pour se contenter de la peu lucrative position de poète. » Mademoiselle Élise demanda « C'est vous qui vous occuperez de lui, monsieur le recteur ?»«
Mais oui, certainement. Je l'aime beaucoup, ce cher enfant. Puisqu'il est sans parenté, je demanderai sa tutelle. Puis je le mettrai au petit séminaire de Vannes, dont mon frère est supérieur. Là, il fera de bonnes études. Après cela, nous verrons. S'il avait la vocation sacerdotale... Et ce serait encore la meilleure solution pour lui, de toute façon. »
« Sa physionomie est très peu banale et il possède en outre une distinction innée très remarquable. Il eût été dommage qu'il demeurât plus longtemps dans ce vieux Kerlozo, sans surveillance, sans direction, vivant comme un petit pauvre. »
« Oui, très dommage. La Providence conduit bien toute chose. Si seulement ce malheureux vieillard avait eu le temps de se reconnaître. Enfin, je m'efforcerai de faire d'Hoël un homme conscient de ses devoirs. » Le terrain est excellent. Cet enfant a de l'énergie, un cœur affectueux, beaucoup de délicatesse. Un peu ombrageux, par exemple, ce petit Bendegui. Un peu orgueilleux. Le défaut de la famille. La religion bien comprise l'atténuera, je l'espère. »
Mademoiselle Élise dit en souriant « Luz a une très grande sympathie pour lui. »
« Oui, la chère enfant. Oh, elle m'a conté comme elle avait cherché à réparer les petites... méchanceté de ses cousins. Elle a une charmante nature, cette gentille Luz. »
Délicieuse, pas toujours très facile, évidemment. Mais par le cœur, on obtient tout. J'avoue ma préférence pour elle. »
Préférence très naturelle, de toute façon. Cette petite orpheline a bien droit à plus d'affection de votre part, mademoiselle, puisque les autres ont celle de leurs parents. »
Quand, un peu plus tard, le recteur et Mademoiselle Élise vinrent en causant jusqu'au banc sous le pommier, ils trouvèrent Luz très attentive, les mains croisées sur sa petite jupe blanche, écoutant Hoël qui lisait à voix haute des poèmes bretons dans le vieux livre rapporté par la petite fille. Celle-ci, à la vue des arrivants, se laissa glisser à terre et courut au prêtre en s'écriant « Monsieur le recteur, je veux apprendre le breton pour comprendre ce que dit Hoël. Il m'a dit qu'il me donnerait des leçons quand je serai plus grande. »
Le recteur se mit à rire en prenant entre ses doigts le menton de l'enfant.
« Bien, petit lutin, nous verrons cela. Hoël n'aura sans doute pas le temps, car désormais, il va falloir qu'il travaille. N'est-ce pas, mon cher garçon ?» Il regardait maintenant Hoël, qui s'était levé pour saluer Mademoiselle Élise. De nouveau, une clarté vive passa dans les yeux songeurs. Et le petit garçon dit d'un ton ferme, en redressant la tête, « Oui, monsieur le recteur, je veux travailler beaucoup pour rebâtir Kerlozo et pour qu'on ne dise plus que les Pendegui finissent comme des crétins. »
« Qui a dit cela, Hoël ? » le cousin de Luc, ce gros !» Une nuance de dédain passait dans sa voix. « Il savait très bien que je l'entendais. » « Ah, vraiment, ce n'était pas fort gentil, en effet. » Luce demanda, « Qu'est-ce que c'est, un crétin ?»« C'est un être qui n'a pas d'intelligence, presque un idiot, vous savez, comme Yannick. » La petite fille eut une exclamation indignée. « Comme Yannick, mais Oel n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, Albert ?»« Des sottises, déclara Mademoiselle Élise. Ne vous en occupez pas, Oel. Et vous, Luce, venez vite, car nous nous sommes attardés. » La petite fille se tourna vers Oel et lui saisit la main. « Vous n'êtes pas un crétin, c'est Albert qui l'est, et moi, je vous aime bien. Au revoir, Oel. »